A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il a un nom grec, un père grec, un grand-père grec et une paire de problèmes avec la grécitude. Et si vous étiez grec vous-même, en entendant le nom d'Alexandrakis, vous seriez stupéfait de savoir qu'il est là, assis dans le fauteuil d'un sol majeur, le petit-fils, Constantin Alexandrakis. Histoire shakespearienne que celle de ce vagabond parti à la recherche d'un père inconnu qu'il croyait mort. À la fois terre d'origine et terre mythologique, le pays de ses pères produit sous la plume de Constantin un premier roman autobiographique totalement halluciné qui épuise tous les registres de l'introspection. Deux fois né vient de paraître aux éditions Verticales, roman qui commence en 2011 avec l'auteur et sa mère assistant à une messe de Noël à laquelle ils ne comprennent rien dans une église grecque orthodoxe.
Alors là, ma mère laisse échapper, on rentre à la maison. Bah, moi, ça ne me dérange pas de rien comprendre, je réponds. Oh, moi non plus. Si tu veux, on reste, après tout, c'est ton Noël, c'est toi qui décides, dit-elle. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Je la regarde et je dis, je sais pas. Tu t'attendais à quoi? Bien sûr qu'on ne comprend rien. On n'est pas vraiment grec et on n'est pas du tout orthodoxe. Moi, si, s'offusque-t-elle. Je suis baptisé orthodoxe et je suis né en Grèce. Alors là, moi, je pense, elle le fait exprès ou quoi? Au moins, on l'a fait, elle ajoute. Je trouve ça bien, moi, de venir ici, mais on aurait dû préparer un peu, peut-être rencontrer le pope pour qu'il nous explique les rituels. Ouais, c'est ça, tu vas devenir orthodoxe d'un coup, je lui balance. Non, c'est pas ça, je voulais redonner du sens à Noël, que ce soit pas un jour comme un autre. Et moi, je lui dis, alors, tu te racontes des salades si tu veux, mais c'est des salades. Voilà. C'est pas le sens de Noël que tu cherches, raconte pas de conneries.
Bonjour Constantin Alexandrakis.
Bonjour.
Vous étiez qui avant d'être deux fois né?
Eh ben, j'ai été moi-même et un autre en même temps, parce que ça m'a effectivement un peu changé ce voyage.
Vous n'étiez pas encore un autre finalement?
Ou en tout cas, j'avais un peu moins d'informations sur mon histoire et sur mon, et ne serait-ce que sur mon nom. Aujourd'hui, mais après c'est la vie, aujourd'hui je suis différent et en même temps le même.
Alors ce roman qui est une enquête un peu généalogique autour de votre géniteur, elle commence sur un secret de famille auquel vous donnez un autre nom. Vous, Constantin, vous dites qu'il y a eu un malentendu, mais pour comprendre ce malentendu, bah, il faut remonter plus haut, à l'origine. Et oui, votre grand-mère était une femme, on va dire, extraordinaire, qui faisait du cheval près de Maison Lafitte, pas loin de Paris. C'est ce que vous écrivez, Constantin Alexandrakis. Qui c'était alors, cette femme extraordinaire?
Bah, c'était une très belle femme qui a une trentaine d'années dans les années 50, qui chassait, qui faisait du cheval. Voilà, une fois, une femme de caractère.
Une Française.
Très française, avec des opinions politiques qui ne sont pas les miennes du tout.
Et une fois, et le moment clé de sa vie, enfin qui va produire votre histoire à vous, c'est qu'elle est, elle se retrouve envoyée spéciale en Grèce pour le journal Paris Match, dans voilà, les années 50.
C'est ça. Et là-bas, elle, alors je pense qu'elle est journaliste à la cour du roi, parce qu'à l'époque, il y a un roi qui est imposé par les puissances extérieures et donc qui est au pouvoir. Elle traîne dans cette cour et elle rencontre un acteur, un jeune premier, très beau, avec qui elle a une histoire. Elle tombe enceinte et lui, il la quitte pendant qu'elle est enceinte quand même. Donc, et ce qui produit ma mère, en fait.
Et alors cet acteur, c'est quelqu'un de très connu. Hein, quand on tape son nom sur la toile, on voit que c'est un nom important du cinéma grec. Comment il s'appelle?
Alekos Alexandrakis.
Donc c'est-à-dire que vous portez le nom de votre grand-père?
Oui, parce qu'il l'a, il reconnaît ma mère, et après il va s'en occuper un petit peu pendant quelques années, parce que tout ça c'est aussi des histoires qui s'enchassent, c'est-à-dire que ma mère aussi a des problèmes avec son père.
Alors pour quelle raison, elle qui est née en Grèce, est obligée de quitter sa terre natale à l'âge de 10 ans?
Ben, tout simplement parce que ma grand-mère rentre chez elle en France. elle rencontre un homme et elle part refaire sa vie avec lui en France. Et du coup, elle revient, puisqu'elle elle grandit comme beaucoup d'expatriés, on va dire. À Athènes, elle va au collège, elle apprend le français et le grec. Et elle rentre en France. C'est un milieu qui est très bourgeois. Une espèce de droite un peu classique, quoi.
Très bourgeois, mais avec plein de ruptures, on va dire, hein, avec les origines. Parce que donc, votre mère est née à Athènes.
Ouais.
On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur son extrait de naissance?
ça, c'est une bonne question. Parce que les papiers de ma mère, ça pourrait être un nouveau roman. Parce que c'est un merdier pas possible dans lequel moi-même je me perds. Je sais que je l'ai noté dans le livre, mais...
Alors en fait, vous l'écrivez page 230 de votre livre. Vous écrivez ce commentaire du docteur donc sur l'extrait de naissance. Je cite « Enfant de sexe féminin qui ne m'a pas été montré ».
Oui. Du coup, elle a un truc comme ça. Avec les papiers aussi, elle a une espèce de phobie, je pense.
En tout cas, elle apparaît sous votre plume un peu paumée, votre mère, entre la France et la Grèce. Comment est-ce qu'elle rencontre votre père à vous, Constantin Alexandrakis?
Bah écoutez, elle le rencontre en faisant du stop. Effectivement, à un moment où elle est dans la merde, elle a 20 ans, avec une famille qui... son père ne s'occupe pas d'elle et il faut qu'elle se démerde. Et du coup, elle se démerde. Elle se démerde plutôt bien, parce que elle va avoir un enfant toute seule et réussir à l'élever et être plutôt assez forte.
Oui, enfin, c'est pas simple, hein, la condition de fille-mère. On est dans les années, fin des années 70. Hein.
C'est ça. On la considère comme une fille-mère ou comme, je sais pas quoi, une folle, une salope, plein de trucs, quoi.
Donc le père, bah, y en a pas. Et qu'est-ce qu'elle va vous servir à vous, le fiston, comme version officielle de cette absence paternelle?
Alors, il y a tout un moment où elle dit rien. Et puis un moment où j'insiste un peu, où elle me raconte un truc pas possible, que s'il est tombé sous une cascade en Guyane, et puis qu'il est mort. Voilà. Elle me dit à 12-13 ans qu'il est mort, et c'est une dizaine d'années plus tard que je me dis « Ah mais une cascade en Guyane, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et là, je lui tire les verres du nez, et là elle me donne un nom grec, impossible, très exotique, une fois, elle me le dit une fois, et je l'oublie pas du tout, jamais. Pour moi, il y a un truc qui va me servir de vérité, auquel je vais m'accrocher. Enfin, si je dois... Parce que là, je raconte l'histoire dans tous les sens.
Il faut lire l'histoire. Donc, il y a en tout cas une version officielle que vous avez un peu démantelée, mais ça va se jouer sur plusieurs années. En tout cas, votre vie de petit Constantin Alexandrakis, elle est faite de bruit et de fureur domestique. Il est tout à coup 1987 dans votre vie, Constantin, mais il faut nous mettre un petit peu, pour un sol majeur, les images qui vont avec cette enfance sonore.
Eh ben, écoutez, Jean-Jacques Goldman, en passant l'aspirateur, c'est ma mère qui fait... C'est vrai que c'est vraiment ça, vous m'aviez demandé des sons d'enfance, et c'est un truc... Enfin, ma mère est une grande fan de Jean-Jacques Goldman, et effectivement, et elle fait beaucoup le ménage, et c'est aussi une femme seule, on n'avait vraiment pas une thune à ce moment-là, donc du coup, il n'y a pas d'histoire de femme de ménage ou je sais pas quoi, et elle range, elle dérange, elle bouge les meubles, elle arrange. Là, on habite dans une maison, elle dort dans l'entrée, là, on est dans une maison bien particulière, qui est un genre de casse, où effectivement, on a des oies, on a des chèvres, et on est dans un quartier très bourgeois, avec des maisons résidentielles, disons, dans la banlieue parisienne, et on est un peu les gitans, quoi, du coup, je sais pas comment dire. Du coup, on a les oies qui bouffent le grillage, qui passent dans le jardin des voisins, sa gueule. Moi, je fais plein de conneries.
Du genre?
Je fais des petites conneries, je casse des trucs, je vole des scooters, tout seul. Je vole le scooter de ma mère, je vole pas un scooter. Je suis un très mauvais délinquant, mais...
Ma mère ment à tout le monde. Elle porte un secret qui lui donne autant de force qu'il la piège. C'est à la fois une mère courage, elle m'élève seule, et une menteuse, elle n'est pas vraiment veuve. Un jour, prétendant qu'il s'agit de mon père, elle me donne une photo fausse, où un homme plutôt grand la tient par la main. Je la perds immédiatement pendant mes vacances sur l'île aux moines. Ça, c'est page 26 de ce roman autobiographique, Deux fois né. Tout ça vous conduit effectivement à une enquête généalogique jusqu'en Grèce et jusqu'à votre père biologique, Constantin, que vous retrouvez finalement. Mais comme dit le proverbe, que vous connaissez évidemment, l'important, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin. Et ce chemin, ben, il est fait de boîtes de Pandore, de tests ADN, d'immersion, un peu au Mexique, et puis d'errance aussi dans la mythologie grecque. En quoi vous diriez que c'est une forme de renaissance, ce chemin que vous avez fait ?
C'est une métamorphose, moi je dirais, parce que je suis effectivement plus exactement le même, et c'est en devenant un autre qu'en même temps on devient encore plus le même, c'est toujours ce qu'on se disait. Pour ce qui est du proverbe, moi j'ai tendance à penser que quand même l'important c'est le but, qu'il s'agit de ne pas se paumer en chemin surtout. Pour moi, me perdre ça aurait été de me dire bon ça y est maintenant je suis grec, je vais vivre là-bas, je vais me prendre pour un grec par exemple, ce serait une manière de se perdre et pas oublier qui on est et d'où on vient. Voilà, je suis effectivement multiple et...
Mais vous diriez que d'avoir retrouvé votre père, c'est ce qui était le plus important, c'était...
Non, pas du tout, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un livre sur la quête d'un père, c'est pas ça. J'ai 33 ans, je m'en fous un peu de trouver un père, j'ai pas vraiment besoin de ça en fait. Moi, ce que je veux, c'est la vérité et des informations. Donc savoir à quoi il ressemble, où est-ce qu'il habite, et après d'autres informations qui dépassent largement ce truc, qui sont beaucoup plus générales, c'est-à-dire c'est quoi la Grèce, c'est quoi l'histoire du pays, c'est quoi la langue, et un intérêt aussi pour des choses beaucoup plus philosophiques ou disons intellectuelles, parce que bon, si on met le doigt sur la Grèce, on tombe assez rapidement sur des trucs, genre de trucs. Donc je suis de retour dans le centre d'Athènes et je cherche mon type physique en observant les gens dans la rue. Alors j'ai encore l'impression de voir des sosies de ma mère partout. Et aussi j'ai pas vraiment une tête d'Hélène au nez tendu sous des cheveux noirs et bouclés. Alors je regarde les gens et je me dis ah oui celui-là peut-être un peu, ah non celui-là pas du tout. Petit à petit, je suis bien obligé de constater que le vrai grec a une tête d'Albanais, qui a une tête d'Italiote, qui a une tête d'Anglais, qui a une tête de Géorgien anarchiste, qui a une tête de marin syrien, qui a une tête de cuisinier kabyle, qui a une tête d'Américaine en basket fluorescente, qui a une tête d'Afghan blond aux yeux bleus, qui a une tête de Copte, qui a une tête de Bosniaque, qui a une tête de Monténégrin, qui a une tête de Serbe, qui a une tête d'Ukrainien, qui a une tête de Sénégalais, qui a une tête de Russe, qui a une tête de Pakistanais, qui a un peu la même tête que Jésus, mais en plus gros, avec une tête de Crétois, qui a une tête de Corse, qui a une tête de Maltais, qui a une tête de Marocain, qui a une tête de Turc, qui lui-même a une tête de Visigoth.
Extrait en sol majeur de votre premier roman autobiographique, Deux fois né, roman auto-halluciné, je dirais, Constantin Alexandrakis, mais on dirait que vous n'avez pas trouvé la chute de cette magnifique énumération tellement inspirée.
Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chute. Après, sur cette histoire d'hallucination, je pense que si on s'intéresse à des sujets comme l'origine ou des fondamentaux, on arrive vite sur des choses très cosmiques, très infinies, notamment la question de l'origine qui peut se poser comme ça, c'est-à-dire que où commence le commencement, c'est quand même assez difficile d'avoir une réponse. Et l'origine, si vous regardez un peu, plus on cherche à la saisir, plus elle se démultiplie.
Mmh. On y reviendra sur ses origines, vous en faites pas. Mais cette plongée dans l'écriture, elle s'est mise en place comment chez vous ? Parce que j'avais l'impression que vous étiez plutôt un manuel au départ.
Oui, j'oscille entre les deux. J'ai fait les beaux-arts, du coup, puis j'ai bossé, j'étais charpentier, j'ai fait des chantiers de peinture, j'ai fait tout un tas de trucs. Mais après, moi, j'ai grandi dans les livres, ma mère est scénariste. Je suis pas venu à l'écriture, je baignais dedans depuis toujours. Et l'écriture, c'est l'endroit où je suis le plus à l'aise.
Mais pourquoi ce passage de l'écriture, justement, après votre enquête généalogique, pourquoi est-ce qu'il devait y avoir...
Et ben ça se passe pas après, ça se passe pendant, et l'écriture elle me sert à enregistrer tout ça pour pas que ça se perde.
J'ai remarqué que dans votre écriture vous militiez pas mal pour les parenthèses, avec cette phrase qui revient régulièrement, vous dites « j'y reviendrai », sans toujours y revenir d'ailleurs.
Bah si, j'y reviens, tout le monde dit ça, mais moi je me mets au défi de me trouver un « j'y reviendrai » ou « j'y reviens pas », je crois pas.
C'est une virgule pour moi dans votre phrase. J'y reviendrai.
Ben parce que en fait, si vous voulez, je lance un peu tous les fils en même temps. C'est quelque chose de très rhizomatique, on va dire. C'est un peu comme la couverture du livre, c'est un labyrinthe. On passe plusieurs fois par le même endroit et puis on y revient.
À propos de labyrinthe, ça tombe bien. Qui peut avoir influencé Constantin Alexandrakis dans son écriture? Il y a peut-être une réponse à chercher du côté d'un poète performer, mort à 41 ans en 2004, un certain Christophe Tarkos. Alors attention, ça sent pas la rose.
Alors j'ai rencontré un homme de merde, et il était fait tout en merde, il portait des vêtements en merde. Dans la bouche, il avait des petites choses très dures et très noires, et j'ai bien regardé, c'était de la merde à la place des dents. Et je regardais sa bouche, je regardais l'intérieur de sa bouche, et il y avait une sorte de merde pâteuse et un peu coulante. Et ses yeux étaient complètement vitreux, c'est-à-dire ça coulait un peu gluant et marron vitreux. Et j'ai bien regardé au fond de ses yeux, et c'était de la merde. Et après j'ai regardé dans sa tête, et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme ça deux morceaux de merde très serrés, très noués, très noués, qui faisaient des tortillis comme ça dans son cerveau, dans sa tête, et c'était de la merde très serrée. Et j'ai regardé au fond de son cœur, et son cœur, c'était un gros bloc de merde. Et il y avait du jus qui sortait de son cœur, du jus marron, sale. C'était un gros jus de merde qui circulait de partout. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme soit complètement plein de merde. Alors je l'ai écouté parler, tout ce qu'il disait c'était de la merde, et tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées c'était de la merde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe. Je l'ai bien regardé, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gros bonhomme de merde.
Un vrai cabinet d'aisance pour un seul majeur avec RFI. Christophe Tarkos donc, qui disait, je défends la langue française contre sa dégénérescence. Ça vous parle, ça, Constantin Alexandrakis?
Je sais pas si... Alors moi, je défendrai pas la langue française, j'en sais rien. Après, Tarkos, c'est un très très bon écrivain.
Et qu'est-ce qui vous intéresse chez lui?
Bah, en tout cas, sur ces histoires de répétition et d'espèces de pensées en spirale, la poésie contemporaine, on va dire, ils ont beaucoup travaillé ça. Du coup, moi, il y a quelque chose là-dedans que je trouve assez juste pour décrire ce que c'est que la pensée, je dirais, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pense un peu en spirale.
C'est ça votre but dans l'écriture? C'est vous attaquer à la pensée?
Bah, c'est ce que j'ai un peu découvert. C'est aussi une enquête sur ce que c'est que l'intelligence, ce bouquin. C'est pour ça que ça dépasse un petit peu cette histoire de quête de géniteur et d'histoire personnelle. C'est des questions qui m'intéressent, et du coup il y a une enquête, enfin où je reprends une enquête très sérieuse de Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, et je la fais mienne, et il y a tout un champ lexical qui irrigue le livre, qui est le champ lexical d'une intelligence, d'une forme d'intelligence qu'on appelle métisse, qui est une forme d'intelligence rusée, fourbe, qui appartient au mensonge, qui appartient à la ruse surtout, qui peut être très maléfique et en même temps très très puissante. Et Tarkos s'est très éloigné de ça. Enfin, c'est des choses formelles que j'ai découvertes.
Non, mais il y a un petit effet miroir entre Tarkos et vous. On reviendra sur, évidemment, cette belle figure de métis en seconde partie. Alors, ironie que les psys vont sans doute adorer après avoir écouté votre histoire, Constantin, c'est le fait que vous programmiez « Maman didn't lie » de The Flip. « Maman ne ment jamais ».
World is playing tricks on every young girl. To have water so they get their kicks.
Un petit côté 60s sur le pick-up dans Sol majeur avec Mama Didn't Lie to Please. Notre invité, Constantin Alexandrakis, auteur de Deux fois né. Et ça mérite bien d'y revenir dans 3 minutes.
A long way from home.
En Sol majeur.
Je voudrais me choisir un dieu mort, j'hésite entre Athéna et Dionysos. Qui peut être aussi sombre et joyeusement mythomane que l'auteur de cette phrase ? Depuis 20 minutes en sol majeur, c'est Constantin Alexandrakis, 40 ans, recouvert d'un nouveau manteau généalogique depuis 2011. Le voilà sur la mer Égée en quête d'une nouvelle patrie. Je crois bien que cette nouvelle patrie, c'est l'écriture. Bien sûr, Deux fois nés est un roman autobiographique sur ce fils qui tisse sa toile jusqu'à ce géniteur qu'il croyait mort. Mais c'est aussi et surtout un terrain de jeu pour la folie du langage, la boulimie du savoir, comme si le coup fin culturel un peu en surpoids compensait le flou des origines. D'ailleurs, je me posais la question, c'est quoi votre boulot aujourd'hui ? Parce que plus je vous lis, moins je sais.
Là, en ce moment, je travaille pas beaucoup. Je m'occupe surtout de ma fille. Mon boulot, c'est d'élever une petite, là.
C'est chouette c'est comme métier.
Ça. Oui, c'est bien.
Papa, c'est un chouette métier,
ça. Je fais pas mal ça. Et voilà, je vais peut-être avoir... là, je vais repeindre des apparts bientôt, je pense. Après, c'est pas, ça me dérange pas non plus de bosser un petit peu de temps en temps. Voilà.
Vous êtes un nomade dans ce monde de, gouverné par le CAC 40 ?
Peut-être, je sais pas. C'est... Bah, en tout cas, le CAC 40, c'est loin de moi. Ouais. Mais après, moi, mon but dans la vie, c'est de produire des choses qui ne sont pas très valorisées dans notre société. On est, enfin, en tout cas, pas au niveau. Comment dire, les écrivains qui sont très bien payés, il y en a peu. C'est comme ça, j'ai pas choisi un métier qui paye, quoi. Donc, faut que je croûte un petit peu ailleurs, de temps en temps. Et puis, y a ma mère qui me donne des coups de main aussi, hein. Franchement. Je suis obligé de le dire. Alors, j'en ai plein le cul de ce truc. Je veux tuer ce destin qui veut me tuer. C'est lui qui a commencé. Je me paye un genre d'Oedipe hibernatus, ou de rétro-complexe, ou de névrose boomerang. Je me dis, quand le vent soufflera, je vais descendre le Nil, caresser des papyrus, me tremper dans une amphore en Cappadoce, et revenir à Smyrne, faire du bateau stop entre les mille îles pour finalement zoner dans les grottes de Zeus.
N comme Narcisse.
Vous qui voudriez vous choisir un dieu mort, j'aime beaucoup cette image, je l'ai hein, en tête. Vous pensez quoi d'un Narcisse qui, en voyant son reflet, est tombé amoureux ?
Pas grand-chose, c'est vraiment pas des trucs que j'ai travaillé. Narcisse, je connais mal ce mythe. Typiquement, moi je suis en pleine blessure narcissique, ce qu'on appelle, et du coup, quand on a besoin de se lécher le nombril, je pense que les gens, on a le droit de le faire, c'est pas non plus une honte. Et on en a besoin, c'est tout, quoi. On a besoin de se regarder dans le miroir. Après, effectivement, je pense que, comme d'habitude chez les Grecs, tout est dû à faire de mesure. Il faut juste ce qu'il faut.
Mmh. Alors, en termes de dieu mort, vous hésitez entre deux figures, Athéna et Dionysos. Pourquoi ces deux-là ?
Alors, Athéna, c'est une déesse de la métisse, vraiment. C'est-à-dire de la...
Fille de Zeus et de métisse.
Voilà. Et qui est donc une déesse de la guerre stratégique, de l'intelligence rusée, de l'astuce, de la ruse, et d'une espèce de lucidité et de calcul, on va dire. Et Dionysos, c'est tout à fait autre chose, c'est le plus doux et le plus brutal de tous les dieux.
C'est le dieu de la vigne, du vin, des excès, de la folie, de la démesure.
C'est ça. Et d'une certaine forme d'altérité aussi, c'est-à-dire que Dionysos, c'est un étranger de l'intérieur. Pour Parce que les Grecs eux-mêmes le décrivent comme un dieu venu de l'étranger, venu de loin, alors qu'en même temps, il est tout à fait grec, et on sait très bien que son père, c'est Zeus, et on sait très bien où il est né, à Thèbes, et du coup, c'est un étranger de l'intérieur. Il va personnifier l'étranger et l'étrange, du coup, parce qu'il va être aussi un peu féminin, ambigu sur beaucoup de choses, très difficile à saisir.
Vous hésitez entre une forme de stratégie et une forme de démesure. Pourquoi est-ce que cette enquête généalogique qui se déroule en Grèce, c'est vrai, sur les traces donc de ce géniteur, pourquoi est-ce qu'elle a favorisé ce plongeon profond dans la mythologie grecque, chez vous ?
C'est encore une fois une manière de m'enrichir, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je peux rien faire avec cette histoire de géniteur, c'est complètement bouché, j'ai vraiment pas grand-chose à en tirer, il n'y a pas grand-chose à en penser. Les jeux sont faits depuis le départ, et par contre moi ce que je peux faire c'est m'intéresser à la Grèce, et là... Et ben, j'y vais un petit peu fort, comme je peux faire, c'est-à-dire que je m'intéresse vraiment à la Grèce et à son histoire, et je tombe par hasard sur ce livre de Vernant qui va me nourrir.
On va y venir, mais ça ressemble un peu à un arbre généalogique inexistant et un arbre mortel, cette mythologie grecque. Est-ce que ça remplace votre arbre à vous ?
Oui, ça, pour le coup, c'est très structurant, la mythologie ou en tout cas les explications de la mythologie par Jean-Pierre Vernant sont extrêmement structurantes. Parce que si vous voulez, c'est là où ça a un lien, c'est que c'est aussi une cartographie de ce que c'est que le mensonge.
Alors métis. Dites-nous, cette figure de métis.
Alors métis, son histoire, à la base, c'est une déesse et une forme de pensée. C'est une déesse primordiale, avant Zeus, qui va être la première femme de Zeus, et on prédit, c'est toujours Zeus, on lui prédit qu'elle va avoir un enfant, hein, qu'il détrônera comme lui-même vient de détrôner son père, Cronos. Et du coup, Zeus l'avertit, il se fait plus rusé que la ruse, même en lui disant « Ah, tiens, t'as ce pouvoir de métamorphose, super, est-ce que tu pourrais faire l'arbre à haut panache ?» Donc elle fait l'arbre à haut panache. « Est-ce que tu pourrais faire le tigre ?» Elle fait le tigre. « Est-ce que tu pourrais faire ci, ça, ça ?» Et au moins, « Est-ce que tu pourrais faire la goutte d'eau ?» Elle se transforme en goutte d'eau, et lui, hop, il la gobe. Il la gobe, et là, à partir de ce moment-là, pas une ruse dans le monde pourra se faire sans passer d'abord par son esprit. Du coup, c'est le plus rusé des rusés, mais parce qu'il avale Métis. Et il avale Métis qui est enceinte d'Athéna, et c'est là qu'il va pouvoir accoucher d'Athéna par la tête.
Donc ça, c'est le mythe.
Ça, c'est le mythe.
Pour la pensée.
Alors, pour la pensée, ce que fait Vernant, qui est passionnant, c'est un genre d'anthropologue, on va dire, mais qui n'ont plus de terrain. Il n'y a plus de grecs anciens. Tout le monde est parti. Et ce qu'il leur reste, c'est des textes. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les textes et ils mettent à jour un champ lexical de Métis, qui va de l'Odyssée à des traités de chasse et de pêche romains, donc qui traversent tout le monde hellénique. Et là, on s'aperçoit quelque chose qu'on ne pensait pas de la Grèce antique, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de pensée rusée, fourbe, qui peut sembler loin de la logique et loin d'un certain esprit, disons, philosophique, rationnel, qui est plus un esprit du bricolage, de l'astuce, de la combinaison. Et ben, on s'aperçoit que cette forme d'intelligence est extrêmement valorisée dans l'Antiquité et qui va être mise dans l'ombre, on peut dire, par la philosophie ou après, bon, par la chrétienté, et qui aujourd'hui me semble important de redéterrer parce que c'est une intelligence qui dit pas son nom et du coup c'est très difficile d'en parler. C'est pour ça que...
Oui, c'est pour ça que vous écrivez sur la duplicité,
voilà,
parce que comme vous le dites, le mot et le langage sont nécessairement dans la duplicité. Ça vous intéresse et ça vous raconte, vous qui êtes... ballotté depuis toujours entre deux, entre la France et la Grèce, tout en vivant au pays de la duplicité à cause de cette histoire primitive, de cette histoire originelle. Je parle de votre géniteur.
Oui, il y a une vérité là-dedans. Alors, c'est-à-dire qu'on aura deux choix avec le langage. C'est soit on en joue, on joue de ses effets, de la musique, des jeux de mots, de tout un tas de choses, soit on s'occupe de démêler, qui est le rôle chiant, en fait. Qu'ont en général les philosophes, aujourd'hui ce serait des sociologues peut-être. Et moi je suis un peu du côté où je démêle et en même temps j'en mêle aussi. Mais il ne peut pas y avoir de transparence dans le langage, c'est ça qu'on dit. C'est toujours quelque chose à réexpliquer.
Et il ne peut pas y en avoir non plus de transparence dans vos dessins, parce que vous dessinez aussi, Constantin Alexandrakis. Vous avez commis une exposition il y a 3 ans maintenant
tout
qui s'appelait
«
Métis, récit au pluriel et climat ». Si vous choisissiez, comme ça, pour nous, les éditeurs, dans Sol majeur sur RFI, un dessin emblématique de cette exposition, et qui dit quelque chose, peut-être, de cette duplicité que vous recherchez jusque dans le dessin, vous commencez par un gribouillis.
Voilà, ça vient très rapidement de faire une série de petits ronds, on va dire, qui s'enchassent les uns dans les autres, une espèce de spirale, et après, moi, je les construis, ces spirales, je les domestique, je les dresse. Des fois, je me laisse embarquer par cette espèce de répétition et de variation dans la répétition. Il y a une liberté très importante dans ces dessins et en même temps c'est très aliénant. Je fais des pauses parce que c'est un boulot un peu de psychopathe, on va dire. Du coup, ou de moine trappiste. Et ça peut me prendre un mois pour en faire des grands.
C'est ça votre boulot, moine trappiste. On a trouvé, ça y est.
Un peu, ouais. Mais j'essaye quand même d'avoir une vie sociale, mais c'est difficile.
Ήταν η τηλε σκοπών των επανασίων φιλοχωράδι κορυφών κλείτην ύλων κατάρχεται εγώ.
Dans quelle langue bercez-vous votre enfant?
Constantin Alexandrakis.
Bah, vous avez de la chance, je la berce vraiment en grec en plus.
Oui, j'ai de la chance.
Ouais.
Ça fait comment?
Vous voulez que je vous chante une chanson?
Allons-y.
C'est très intime.
Si je m'endors, vous me réveillez?
Ça s'appelle Miagria, ça veut dire une vieille. Et c'est l'histoire d'une vieille dame. C'est un humour, je ne sais pas comment le traduire. Je peux vous la chanter si vous voulez. Ça fait Miagria, tsekerekitrom, trakatrom, trakatrom. Miagria, babogria, lachana magireve. Keputa, tsekerekitrom, trakatrom, trakatrom. Keputa magireve. Ketisirthe miavoi, yana paina padrefti. Dinimia, tsekerekitrom, trakatrom, trakatrom. Dinimia, tout. Tenzeri che alimia tu capacchio. Fate co tsikiriki trom trakatrum trakatrom. Fate co tesla hana che si sgatesta zumia. Yatiego tsikiriki trom trakatrum trakatrom. Yatiego sa padrefto che sa niko kirefto.
Je crois que tous les auditeurs ont les yeux fermés.
Tout le monde s'est endormi.
Keputa?
C'est coupé, c'est puta magireve. Où est-ce que tu vas cuisiner? De retour en France, il y a akuo, entendre. Il y a troo, manger. Il y a leo, dire. Il y a cleo, pleurer. Il y a pao, aller. Il y a keo, brûler. Il y a spao, briser. Il y a hiparchi, il y a. Tout ça à cause de ce prépi, il faut, qui m'obsède. Souvenez-vous, le géniteur a dit prépi, que j'apprenne à parler grec.
Voilà, c'est ce qu'on peut lire de votre roman Deux fois né, Constantin Alexandrakis. Résultat, vous avez quel niveau en grec aujourd'hui?
Je pense un enfant de 3 ans, ça doit être quelque chose comme ça, quoi. C'est pas un niveau extrêmement brillant.
Vous la jouez alors? Parce qu'on a l'impression que vous êtes
Pour les chansons, ouais. Ah bah oui, les chansons, je les apprends bien pour ma fille. Elle, j'ai bon espoir qu'elle. J'en sais rien, je la forcerai pas, mais bon, j'ai envie qu'elle ait un petit peu cette langue dans la tête, au moins un petit peu une oreille, quoi. Mais après, c'est long, c'est une langue très compliquée, il y a énormément de mots.
Dans la musique, il y a énormément de notes.
Non, mais il y en a plus qu'en français, il y a un vocabulaire gigantesque.
Mais pourquoi vous avez senti le besoin d'apprendre cette langue, d'aller jusque-là?
Et franchement, c'est la meilleure entrée pour découvrir un pays. C'est l'endroit le plus satisfaisant dans ma rencontre avec la Grèce. C'est là où je travaille vraiment le truc.
Ah, vous adhérez complètement?
Je rêverais de lire en grec. Ouais.
C'est dingue parce que.
Je peux pas. Mais
Ce père biologique aurait été japonais, vous parleriez japonais.
Ah bah ouais, mais il met ce défi-là et je dis ok, bah c'est bien, ouais, t'as raison, je vais le prendre.
C'est comme un défi.
Bah oui, parce qu'au début on se rencontrait avec un interprète, puis finalement après je finis par le parler en tête à tête. Donc c'était pratique, mais non, je pense pas que ce soit un défi, c'est que quand il dit il faut, c'est un côté t'es grec, faut parler grec quoi. Il y a un 1-2-3 grec.
Ça faut expliquer, 1-2-3, viva l'Algérie. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous plongez dans la mer Égée, vous le faites pas à moitié, on aura compris, puisque toujours au cours de cette enquête généalogique autour de votre père, vous allez donc à la rencontre non seulement de la mythologie, mais aussi de la Grèce contemporaine. Et pour parler de la Grèce moderne, disons. Et pour parler de celle qui a des dettes, rien de tel qu'une petite comédie grecque.
Et c'est communiste ?
Oui !
Et c'est aristéros ?
Oui !
Et c'est axios ?
Oui !
Et c'est Gendo ?
Oishi !
Et c'est Pâques ?
Oishi !
Et c'est Va ? Timelotis Hotel ! Et c'est Anastasiakos ? Sasapour, Densos Vlopo ! Ah, oishi ! Dinopatas !
Oishi !
Alors, un mot Constantin Alexandrakis pour un sol majeur sur ce film des années 70 intitulé Le Thanassis au pays de Sphaliaras. Juste comme ça, avec l'image, ça donne quoi ?
C'est donc Thanassis Vegos, un acteur grec extraordinaire, extrêmement drôle, très très populaire en Grèce, qui est un type qui a une histoire de vie, qui a été torturé pendant la dictature et qui va faire des films comiques extraordinaires. Et là, la scène, il est en train de se faire torturer, il se prend des gifles, on lui demande s'il est communiste, on lui demande s'il est, je sais pas de quel parti, ça a l'air d'être ça à peu près, je comprends pas tout. Et il se fait gifler, et à chaque fois il répond non, 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 parce qu'il veut pas se faire torturer plus. Et puis, la fin de la scène, c'est qu'il sort de prison, en ayant pris tellement de tartes dans la gueule qu'il continue à dire non, dès qu'on lui pose une question, il dit non, et il va voter. parce que ça doit être un moment d'élection, et visiblement la propagande est plutôt pour le oui. Lui, il arrive devant l'urne et il va voter non, évidemment. Et là, il y a une porte qui s'ouvre, on lui dit « Ah ouais, tu veux voter non ?» On lui met une grande claque et on dit « Bah si, tu vas voter oui. » Mais
voilà. Et ça, ça fait le lien avec le référendum grec de 2015.
C'est un truc qui est ressorti.
Donc sur la dette publique grecque, hein.
Oui, c'est une très très bonne illustration de ce que c'était que le référendum et de la situation de la Grèce qui prend des gifles. Oui, ça c'est très très bien illustré en deux secondes.
Que vous avez suivi.
Bah, j'ai suivi un petit. J'y étais à ce moment-là. Ce qui se passe, en fait, c'est que moi, il y a un moment où tout le monde se met à parler de la Grèce. Puis en plus, les gens viennent me voir en me disant soit tu payes pas tes impôts, soit ah, qu'est-ce que t'es un grand résistant. Et ça s'est croisé, disons, avec mon histoire, l'actualité. Il y a un moment où je me dis mais il faut que j'y aille, même maintenant, et que j'aille voir aussi ce qui se passe. D'accord, je vais voir mon géniteur. Je suis en mai 2012, donc c'est en plein bordel.
Donc en fait, c'est non seulement ce père que vous a manqué, mais peut-être un pays. À vous lire, vous avez tenté de devenir, comme vous le dites vous-même, un grec des années 2010. C'est-à-dire que ce pays, vous l'avez scanné dans ses entrailles en y croisant, on va dire, le meilleur et le pire. Vous vous retrouvez à Thessalonique avec, je vous cite, des gens incroyables qui essaient de faire vivre un autre monde, mais vous croisez aussi Obdoré, ce parti grec néo-nazi.
Ouais, il y a un moment où je veux très sincèrement devenir grec. Là-dessus, je me suis calmé là-dessus parce que c'est pas possible et puis j'ai pas envie de perdre ce que je suis, quoi, de perdre qui je suis. Donc je vais pas devenir grec, mais il y a un moment où je tente ça, ouais, où je tente devenir un autre, où je m'acharne pour tout savoir, mais en partie aussi parce que ça m'agace quand les gens savent plus de choses que moi sur la Grèce, par exemple.
Ah oui?
Maintenant ça va mieux parce que c'est bon, j'ai ma dose, mais, mais au début.
Ouais, ouais, ouais. Comment on dit phobie en grec, vous le savez?
Bah, c'est un mot grec, je crois, c'est phobia. Phobia.
Vous en avez beaucoup?
Pas vraiment, c'est bizarre. Si j'ai une phobie, c'est que je déteste entendre le bruit de mon cœur, mais c'est tout. Enfin, ça me tend.
Ouais. Et Gérard Depardieu, ah. Peut-être que lui aussi rentre dans la catégorie phobie.
Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions, un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir?
Tu te crois encore dans ta cellule ou quoi?
On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes, parce que pour s'en évader, faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, il n'y a pas de gardien. Personne vient. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs.
Pour un sol majeur sur RFI, Gérard Depardieu dans ses œuvres, et là en l'occurrence dans Tenue de soirée avec Michel Blanc. Est-ce que vous aussi, Constantin Alexandrakis, vous avez parfois eu envie de vous blottir, mais ce serait une phobie contre
Gérard. Gégé. Peut-être. Après, je pense que tous les hommes, visiblement, vu le... C'est Virginie Despentes qui dit ça, que les hommes devraient s'enculer un peu plus pour être un peu plus heureux.
Être un peu plus grec. Pardon,
bah,
ça c'était la blague,
pas, mais...
obligatoire.
Ouais.
Voilà, c'est fait.
En fait, je vous ai dit, Gérard Depardieu, je sais pas vrai. Il y a une partie, je vous dis, où c'est quelqu'un qui me touche parce que c'est un gros con. Et du coup.
Donc, obsession en tout cas. Je sais pas si c'est une phobie, mais obsession.
Oui, j'ai eu cette petite obsession, mais là, c'est le dernier mois, quoi. Je sais pas, j'ai lu une BD sur Gérard Depardieu qui m'a plu. Et puis, il a une énergie destructrice, une façon de se détester lui-même qui me touche et de se foutre en l'air. Je pense, c'est de foutre en l'air tout ce qui va avec lui. Et ça, c'est Dionysos, ça. Voilà. Si vous voulez l'horreur et la violence, je pense que c'est plutôt de ce côté-là. Et. Du coup, là, en ce moment, je tourne un peu autour de cette toxicité masculine.
Pedereo et nos puesses.
Quelle heure est-il dans votre vie?
Ah, il est l'heure de répondre au portable.
Ouais,
voilà. Vous ne l'aviez pas éteint. Vous êtes sauvé par le gong.
C'est pas grave. Non, ça fait bip.
Oui,
non,
ça fait bip, mais vous pouvez répondre à la question quand même.
Il est 40 ans, je sais pas. Il est 39 ans.
C'est une question philosophique que vous devriez aimer, ça, non?
Ouais, bah il est l'heure un peu de se poser, moi je pense, et d'arrêter un peu de...
De s'étirer, hein. Vous êtes beaucoup étiré pendant l'émission.
Ouais. Bah ouais, de se détendre un peu, je sais pas, j'aimerais bien être un peu, j'en sais rien, enfin je sais pas, de la sérénité, des trucs de vieux quoi, je sais pas comment dire, c'est ça que je voudrais moi. Genre faire de la randonnée ou je sais pas, avoir une belle maison à la campagne et s'occuper de mon enfant et puis ouais, faire des trucs un peu calmes quoi. Moi je dis une partie où, et en même temps je me fais chier super vite donc je sais pas.
Vous vous consommez?
Bah ouais, bah c'est comme tout le monde hein, je pense, on est tous là.
Et vous vous consumez?
Bah je pense que c'est comme, de toute façon on est tendu vers la mort. C'est comme ça que ça se passe, c'est ce qui fait la vie.
Alors je sais pas exactement qui c'est, mais ce que je sais, c'est que son poème va nous faire tourner en bourrique. Et moi, je dis pas non.
Autour de Vaduz, il y a des Espagnols, il y a des Catalans, il y a autour de Vaduz, des Basques, tout autour de Vaduz, des Occitans, des Auvergnats, des autour de Vaduz, des tout autour de Vaduz, des Français, des émigrés. Des désintégrés, il y a des vallons et bien d'eau. 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 Il y a des vallons autour de Vaduz et bien d'eau. Et bien d'eau.
Pourquoi Bernard Hetzeg sur RFI? Un poète qui est d'ailleurs incroyablement en sol majeur, je trouve.
Ah, c'est un très très beau poème, tout autour de Vaduz. Puis là, il dit quelque chose de très beau aussi. Enfin, il fait tourner le monde, là. Donc c'est quand même pas mal.
Il fait tourner la question des origines aussi.
La multiplicité des peuples. Vaduz, il faut savoir que Vaduz, c'est la capitale du Liechtenstein. Donc c'est...
T'as le mérite de nous apprendre ça.
Voilà. Mmh. Et qui est aussi, je pense, un paradis fiscal. Et du coup, il y a une manière de relativiser un certain nombrilisme, je pense.
Mais il tourne autour du pot. Comme on peut tourner autour de la question des origines, c'est ce que vous faites. Je reviens en France et je m'ennuie. J'ai l'impression d'être une mouche qui tape contre une vitre. Ce pays me dégoûte. Minuscule jardinet, je me dis, c'est pas mon pays. Bon, ça, vous l'avez écrit au moment du gouvernement de Sarkozy. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez redire cette phrase?
Je suis vraiment dans un trouble. J'y pensais l'autre jour. Il y a un truc, il y a une partie où je me sens très proche du Gérard Depardieu. Je sais pas, c'est des trucs de binationaux, quoi. On est dedans, dehors.
Vous avez la nationalité grecque aussi?
Non.
Pourquoi vous dites que c'est des trucs de binationaux?
C'est une façon de parler pour dire, disons, de gens qui ont deux pays. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais aucune nationalité, et puis ça serait réglé, ce serait beaucoup plus simple. Mais après, il y a une partie où, quand je suis loin de la France, ça me manque, et quand je suis là, hein, enfin bon, c'est...
Bon, tout est normal, quoi.
Oui, c'est assez courant.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire aux éditions Verticales, deux fois né. C'est pas la même chose que né deux fois.
Non, c'est pas pareil.
C'est-à-dire?
je sais pas, il y a un ordre de deux fois né deux fois. C'est dans un sens ou dans l'autre, mais a priori le titre c'est deux fois né. Ça sonne mieux.
Merci Constantin Alexandrakis. Vous allez nous offrir, pour terminer cette émission, un petit prince en bonus, en intraveineuse au choix. Prince?
Ah oui, Prince.
Anastasia, vous dansez, vous chantez, vous faites quoi là-dessus?
Moi, là je fais rien. Sinon chez moi, je peux faire plein de choses. Ouais.
Anastasia, come to me, talk to me, ravish me, liberate my mind. Tell me what you think of me, praise me, craze me, out this space and time. Between white and black, night and day, black night seemed like the only way. So I danced. Gregory looks just like a ghost, and then a beautiful girl, the most wet her lips to say. We could live for a little while, you could just learn to smile. You and I could.
learn to love. I mean the right way. I mean the only way. Perhaps you can show me, babe.
Avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur l'application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Aïssa Tasek. À demain.